Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Voici le deuxième épisode de notre série consacrée à l'année 1964. Cette année-là a lieu aux États-Unis le procès de l'assassin du président Kennedy. En 1964, les Français partent en vacances plus que jamais, un record. Et sur les plages, les Françaises montrent leurs nichons. C'est la mode du monokini. Et c'est aussi cette année-là que la mini-jupe fait débat.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1964.
En mars 1964, à Dallas, s'ouvre le procès de Jack Ruby. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais aux États-Unis, c'est un événement considérable. Car Jack Ruby a tué Lee Harvey Oswald. Et Lee Harvey Oswald est l'homme soupçonné d'avoir assassiné John Fitzgerald Kennedy. Remettons-nous d'abord les idées dans l'ordre. Fin 1963, JFK est assassiné à Dallas et un suspect est appréhendé, qui s'appelle donc Lee Harvey Oswald. Pendant qu'il est en garde à vue, dans les locaux de la police de Dallas, arrivent d'étranges appels anonymes.
Surveillez-le bien, votre pourriture. Ce fils de chienne qui a tué le président, nous, on va s'en charger.
Après 36 heures de garde à vue, Oswald est transféré vers la prison du coin. Et les journalistes l'attendent à sa sortie du bureau de police, bien sûr. Et soudain, un homme là-bas en direct, devant les journalistes du monde entier.
Now, from another camera, the motion is slowed. The murderer moves in. And here is the shame of all America as Jack Rubenstein takes the law unto himself.
L'assassin de Kennedy est donc Jack Ruby. Et maintenant, on va le juger. Le procès va durer un mois. Et au bout, Ruby encourt la peine de mort. Europe numéro 1 dépêche sur place son grand reporter, Jacques Ourevitch.
Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, plaide non coupable, sans pour autant nier les faits. Oui, j'ai tué Oswald, dit-il, mais je l'ai fait dans un moment de folie, donc je suis innocent. Pour la loi du Texas, un homme est insane, traduisez fou, quand, premièrement, il ne peut faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, quand, deuxièmement, il ne peut mesurer la nature et les conséquences de ses actes. Si Ruby arrive à convaincre les jurés de sa folie au moment du meurtre et au moment du meurtre seulement, il a parti gagné, il est innocent, libre. Ce matin, pour vous cet après-midi, nous avons entendu 8 témoins présentés par l'accusateur Wade. J'ai retenu tout particulièrement la déposition d'un journaliste de la radio locale, Glenn Duncan. Duncan raconte qu'il a téléphoné à la police de Dallas peu après l'assassinat de Kennedy. Il voulait avoir des détails sur l'arrestation de Lee Harvey Oswald. C'est Jack Ruby lui-même qui a répondu. Ruby a donné quelques détails, puis il a passé le téléphone à Wade, le district attorney, celui-là même qui requiert aujourd'hui contre lui. Wade a donc donné à la demande de Ruby les informations qu'il possédait au journaliste Duncan. Un autre journaliste a dit avoir vu, peu après l'assassinat de Kennedy, des larmes dans les yeux de Jack Ruby. Pour l'instant, l'accusation comme la défense marquent des points. L'accusation cherche à prouver que Ruby était dans un état normal. La défense, au contraire, qu'il était surexcité au point de ne pouvoir se contrôler. Ruby suit les débats avec anxiété. Il supplie les témoins du regard. Il leur souffle les réponses. Il dessine des lèvres les mots qu'il aimerait entendre prononcer. Il est tendu, fébrile. Ses gestes sont saccadés. Il prend des notes. Il se penche vers ses avocats, murmure. Bref, il réagit à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe. Parfois, il s'immobilise et le corps penché en avant, le regard fixe, il regarde les témoins comme hypnotisé. Si Ruby ne se calme pas, je doute qu'il puisse tenir 15 jours à ce rythme. C'était Jacques Ourevitch qui vous parlait depuis Dallas, Europe numéro 1.
Et puis, via le témoignage d'un policier, que l'avocat de Ruby passe sur le grill.
Le témoin, c'est M. Macmillan, un inspecteur de police. Le 24 novembre 1963, il était chargé de la sécurité d'Oswald. La déposition de M. Macmillan a duré plus de 3 heures. Macmillan a entendu Ruby dire, peu avant de tirer, « Fils de chienne, tu as tué le président. » Puis, après avoir tiré, « Je suis Jack Ruby, vous me connaissez, eh bien j'espère avoir tué ce fils de chienne. » 3 minutes plus tard, Ruby était en cellule, au 5e étage, dans le même bâtiment. Macmillan parle. Dans la cellule, mon collègue, l'inspecteur Archer, a dit à Ruby, « Jack, je crois que tu l'as tué. » Ruby a répondu, « J'espère bien, je voulais tirer trois fois, mais vous m'en avez empêché. » D'après Macmillan, Ruby dit encore aux policiers, « Quelqu'un devait tuer Oswald, vous ne pouviez le faire, alors moi, je l'ai fait. » Le témoin avait alors dit ce que l'accusation souhaitait lui faire dire. Wade, le procureur, se rassoit, Maître Belay pour la défense entame le contre-interrogatoire. Aussitôt, Macmillan se sent mal à l'aise, il s'essouffle, et les haut-parleurs dans la salle amplifient sa respiration haletante. Belay veut en savoir davantage, il fait préciser au témoin les circonstances exactes dans lesquelles Ruby a prononcé ses paroles. Puis, il demande à Macmillan, « Et entre-temps, que s'est-il passé ?»« Je ne me souviens plus. » »« Ruby a parlé. » »« Oui. » »« Que disait-il ?»« Je ne me souviens plus. » En dehors des quelques phrases que je vous ai citées, Macmillan a tout oublié. Il ne se souvient de rien. Belay devient insinuant. « Qui vous a fait la leçon ?»« Personne, » répond le témoin. Mais il se trouble. Il est rouge, congestionné. Il n'entend pas les questions, répond à côté, ne comprend rien, cherche des yeux le procureur. Bref, il a perdu sa belle assurance. Là-dessus, il est midi, le juge suspend la séance et convoque le tribunal à 13h45. À 13h45, Macmillan est de nouveau assis à la barre des témoins, et Belay attaque. « Avez-vous vu le procureur et ses assistants à l'heure du déjeuner ?»« Oui, je les quitte. » Il y a des murmures dans la salle. « Maître Belay, vous ont-ils fait la leçon ?»« Non, » répond le témoin. « Votre témoignage a pourtant été l'objet de cette rencontre. » »« Oui, monsieur. » Macmillan a l'air d'implorer des yeux le pardon de Wade, qui ne réagit pas. Alors commence le festival Belay. Il est diabolique, bombarde le témoin de questions, le met sans cesse en contradiction avec lui-même. Il est adroit comme un chat, profite de toutes les occasions. Bref, quand il en a terminé, 3 heures plus tard, Macmillan ne sait plus où il en est. Il s'est suffisamment discrédité pour que son témoignage perde toute valeur.
1964, On de la traconte sur Europe 1.
Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, 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 oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. L'on allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie.
C'était Eddie Mitchell en 1964 avec « Toujours un coin qui me rappelle », reprise d'un succès américain de Lou Johnson.
1964, On de la traconte sur Europe 1.
Je continue de vous raconter l'année 1964 et cette année-là, en mars, aux États-Unis, à Dallas, se déroule le procès de Jack Ruby, cet homme qui a assassiné l'assassin du président Kennedy, Lee Harvey Oswald. Jack Ruby encourt la peine de mort. Après 15 jours d'audience, la cour visionne la vidéo de l'assassinat d'Oswald. Et la conséquence, c'est que la défense de Jack Ruby va avoir beaucoup de mal à convaincre qu'il était dément au moment du crime.
Le spectacle commence. La salle est silencieuse. Ce qui va suivre est désagréable. Il y a quelque chose d'inhumain. De passer et repasser et passer encore à vitesse normale, à vitesse accélérée, au ralenti, l'image de Ruby tuant Oswald. La grimace d'Oswald, ce haut de douleur et de terreur, indispose les quelques 220 personnes qui se trouvent dans la salle d'audience. Au passage, je remarque que le bras de Ruby, le bras gauche, n'est nullement crispé. Il n'est pas agité par un spasme épileptique. Il est replié écarté du corps, un peu en arrière, comme il serait s'il s'agissait d'un tir d'exercice. Ce qui reste, après la projection des trois films, est mauvais pour Ruby. Tous ceux qui sont dans la salle et les jurés, je suppose, ont eu l'impression que Ruby attendait Oswald comme un chasseur son gibier au détour d'un chemin.
À part ça, au cours de ce procès, le grand reporter d'Europe numéro 1 assiste à une scène stupéfiante.
Je viens de connaître ma plus grande surprise depuis que je suis pour vous le procès de Jack Ruby. Jack Ruby distribue des autographes en pleine salle d'audience. Comme je quittais le tribunal, j'ai vu de mes yeux des jeunes gens s'approcher des policiers qui gardent Ruby. Ils ont parlementé, puis ils ont fait passer à Ruby un carnet. Ruby n'a pas semblé étonné, il a signé et avec un sourire, il a rendu le carnet. J'ai vu beaucoup de choses étonnantes depuis que je suis à Dallas, mais ces autographes donnés en salle d'audience par un homme accusé de meurtre, c'est plus que je ne pouvais en imaginer.
Le verdict tombe le 14 mars 1964. Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, lui-même assassin présumé de JFK, est condamné à la peine maximale, la chaise électrique.
Ruby a appris très calmement sa condamnation à mort. Au dire de ses avocats, il n'a pas manifesté la moindre émotion. Tout à l'heure, ses deux sœurs et son frère vont lui rendre visite. Et alors, en voyant les siens pleurer, Ruby va-t-il peut-être comprendre que ses concitoyens le rejettent de leur communauté en attendant de l'envoyer dans un autre monde. Encore une fois, Dallas m'étonne. Après le journal d'André Arnault, à 20h15, 13h15, heure de Dallas, je suis allé faire un tour rapide dans la ville. Un peu partout, des petits groupes se sont formés, on commente la nouvelle. Les réactions sont les suivantes. D'abord, un ouf de soulagement. C'est fini, tout maintenant va se tasser, les projecteurs qui éclairent la ville depuis 4 mois vont s'éteindre, on va nous oublier. Ensuite, et là je suis étonné, les habitants de Dallas désapprouvent le verdict rendu par leurs 12 concitoyens. Ils le désapprouvent d'abord parce qu'il envoie Ruby sur la chaise électrique, et qu'à Dallas, 30% de la population au moins est opposée par principe à la peine de mort. Ensuite, parce que pour beaucoup, Ruby est malade. C'est un instable. Et épileptique ou non, il est irresponsable. Vous voyez, auprès de l'opinion publique de Dallas au moins, la défense a réussi à imposer sa thèse. Troisième réaction, des habitants du Big D. Et maintenant, que va-t-on penser de nous? Melvin Belay, l'avocat de Ruby, a dit en quittant le palais de justice, « Ces 12 jurés ont fait triompher le fanatisme. Ils ont appliqué la loi de la jungle. » Le monde entier leur reprochera toujours d'avoir voulu envoyer un malade à la chaise électrique. Et cette phrase, les habitants de Dallas l'a devinée avant même que Maître Belay la prononce. Alors ils ont peur. Ils disent, en 2h19 minutes, 12 de nos concitoyens ont décidé de sang-froid de la mort d'un homme. Que va-t-on penser de nous? Sur le trottoir, en face du palais de justice, une centaine de personnes attendaient encore une heure après que le verdict ait été prononcé. Ce sont pour la plupart des Américains venus des États voisins. Eux, sans exception, ils approuvent le verdict. Et cela méritait, je crois, d'être signalé. Mais Ruby, s'il est condamné, n'en est pas pour autant sur les marches de la chaise électrique. Les avocats feront appel.
Mais Jack Ruby ne sera jamais exécuté. Il mourra d'un cancer avant son second procès.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque je suis là. Mon cœur, ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Vous, mes mains,
ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, vous, mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, Mathilde, mère revenue. Cugna, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins, Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon front lit de drap, Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
C'était l'immense Jacques Brel en 1964 avec Mathilde est revenue.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1964.
Nous nous promenons toujours dans l'année 1964 et cet été-là connaît une saison touristique absolument exceptionnelle. Car durant l'été 64, il fait beau et il fait chaud. Et la France attire beaucoup d'étrangers. Et d'abord à Paris, où ils sont un peu refroidis.
Vous êtes allemande, mademoiselle ?
Oui, je trouve que c'est trop cher pour notre pays.
J'ai payé 180 francs belges pour garer une nuit ma voiture. Vous ne trouvez pas que c'est trop cher ?
D'année en année, je trouve qu'ici en France, tout augmente et que c'est beaucoup trop cher.
Nous payons ici en France environ le double qu'en Belgique.
Vous avez émis des plaintes.
Des plaintes donc concernant les choses, concernant les hôtels. Je trouve que l'hôtel est bien, aussi que ça, propre, mais pas de confort. Pas de toilette dans les chambres et on paie très cher. Et surtout donc ce matin, encore au chaud de point de vue déjeuner, ce matin, nous avons dû attendre, dû appeler 4-5 fois, mal servi, on a dû demander des assiettes, des tasses, tout ça, pas de service comme il faut.
Et vous, monsieur, vous sortez beaucoup le soir?
J'ai vu des cabarets. Et moi, je trouve, quand on va en Belgique pour le même prix, qu'on voit la même chose tout aussi bien qu'ici.
Et hier soir, en sortant, puisque nous sommes à 6, naturellement, nous avons dû prendre 2 taxis. Et alors, en rentrant la nuit, on a voulu faire un petit peu le petit foufou. On a demandé si on voulait nous prendre à 6 dans un taxi. Alors, il a bien voulu, à condition qu'on lui paye 200 francs belges pour le même trajet. Et en partant, nous avions avec les 2 taxis 90 francs, donc. Hein.
Et ce n'était pas au compteur?
Non, pas du tout. Non, pas au compteur. Il nous a fait un prix comme ça. On aurait pu refuser, naturellement, mais enfin, on était dans la voiture quand il l'a dit.
En 1964, on est au cœur des Trente Glorieuses. Et les Français aussi prennent goût aux vacances. Durant l'été 64, un Français sur deux profite de ses 3 semaines de congés payés pour partir. Contre 1 sur 3 seulement l'année précédente. Et le film Le Corneau, un classique de 64 avec Bourville et De Funès, croque cette tendance.
Tenez, madame Chenu, donnez-moi un petit coup de main.
Attendez, donnez-moi ça, là.
Attention au casse-croûte.
Alors, comme tous les étés, vous faites votre courrier à Carcassonne?
Ah non, cette année, pour les vacances, je fais toute l'Italie.
Ah bon?
J'espère qu'il sera meilleur qu'ici. Quel été pourri, dis donc.
Allez.
Merci, madame Chenu.
Bon voyage, monsieur Antoine.
Au revoir, je vais revenir tout bronzé.
Biarritz n'a jamais vu tant de monde à pareille époque. La reine des plages, plage des rois, s'est transformée en une véritable tour de Babel. C'est tout juste si l'on entend parler français, et aussi, il ne faut pas l'oublier, les coups de klaxon des énervés qui ne trouvent pas de place pour se garer, car tout le monde, bien entendu, circule en voiture, ce qui rend la circulation quasiment impossible. Il y a aussi beaucoup de bouchons sur la route. Un exemple. Eh bien, pour revenir de La Rosseur, des délicieux petits villages situés à 17 km de Biarritz, à l'intérieur des terres, j'ai mis exactement 1h15. D'autre part, il faut attendre des heures et des heures pour franchir la frontière franco-espagnole et les services frontaliers tant à Béobi qu'à Hendaye sont littéralement submergés. D'autre part, des gens ont dû, cette nuit, coucher à la Belle Étoile ou plutôt dans leur voiture, faute de place dans les hôtels à prix moyen. Enfin, il fait un temps magnifique. Et le soleil aidant, toutes les plages de la côte basque sont noires de monde.
Et au cas où les locaux de Biarritz ou d'ailleurs seraient tentés de prendre les touristes pour des pigeons en faisant flamber les prix, Valéry Giscard d'Estaing, qui est ministre des Finances du général de Gaulle, monte l'opération Prix Vacances. Direction Dinard, en Bretagne.
Madame, vous profitez des joies de la plage. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de l'opération prix vacances?
Je peux vous dire que sur certains articles, le prix des articles sont les mêmes qu'à Paris. Le prix est le même qu'à Paris.
Vous achetez de la viande?
Oui, la viande, oui.
Vous avez pu faire des comparaisons de prix?
Le prix de la viande est la même, même qu'à Paris.
Vous achetez aussi du poisson?
Du poisson aussi, oui. Le prix est le même aussi.
Vous habitez à quel endroit normalement?
Orsay.
Orsay. Et vous êtes aperçu de différences de prix par rapport à Orsay?
C'est-à-dire certaines choses, oui.
Lesquelles?
La viande, mon Dieu.
La viande est moins chère à Dinard qu'à Paris?
Oui, de meilleure qualité.
Madame, je vous surprends au moment où vous sortez de la douche. Est-ce que je peux vous demander...
Non, j'y vais, monsieur.
Vous y allez, pardon.
Oui, je vais.
Est-ce que je peux vous demander si les tarifs des douches sont les mêmes que ceux pratiqués l'année dernière?
Ah oui, c'est exactement pareil.
Il n'y a aucune différence?
Non, aucune.
Durant cet été 1964, les plages, les hôtels et les campings de France sont bondés. Et pour éviter que ça ne recommence, le secrétaire d'État Pierre Dumas présente un plan d'étalement des vacances.
D'abord les vacances scolaires, puisque plus de la moitié des familles voient leur date de vacances déterminée par cela. Les vacances vont se prendre à 10 jours d'intervalle entre deux groupes d'académies partageant la France, et à l'intérieur de chacune de ces académies, il y aura encore un décalage entre l'enseignement moyen, l'ancien secondaire et technique, et l'enseignement primaire. Cette première expérience incitera à des conclusions qui pourraient permettre certaines adaptations encore les années suivantes. D'autre part, l'État employeur va s'efforcer de donner l'exemple en étalant les vacances des fonctionnaires et en veillant à ce qu'aucune administration ne voit jamais ses effectifs baisser en dessous de 50%, ce qui est par ailleurs condition de bon fonctionnement d'un service public. Pour les usines, il faut étudier la chose en fonction des besoins du circuit commercial qu'elles alimentent. Et c'est pourquoi le ministre de l'Industrie, dans le cadre de cette campagne, a en ce moment des conversations en cours avec les représentants des différentes branches d'industrie pour voir lesquelles pourraient fermer en juillet plutôt qu'en août, par exemple. Je pense que la chaussure, compte tenu de ce qu'elle a un gros débouché à la rentrée, fin septembre, aurait intérêt à fermer en juillet et à approvisionner en août ses distributeurs, tandis qu'il peut être concevable que l'automobile, qui vend beaucoup encore en juillet, ait besoin de fonctionner ce mois-là et tienne à fermer le mois suivant. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
C'était les fameux beaux gosses californiens, les Beach Boys, avec I Get Around en 1964.
1964, on de la traconte sur Europe 1.
Je me promène dans nos souvenirs de 1964, et cette année-là pointe une nouvelle mode. Durant l'été 64, pour être à la mode, il faut montrer ses nichons et donc porter un monokini. C'est le styliste Rudi Gernreich qui l'a inventé. Son credo est de créer des vêtements pour les femmes modernes et sexuellement libérées. Et Europe numéro 1 mène l'enquête sur le sujet, bien entendu. Le reporter François Jouffard repère une jeune femme, une mannequin, dans une piscine parisienne.
C'est la fin du mois de juin, il fait beau et il y a beaucoup de monde à la piscine. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, mademoiselle, quand on vous voit à la piscine. Pourquoi ?
quelque chose de différent, de bizarre. C'est pour ça.
Moi, j'ai vu un attroupement, c'est à cause de votre costume de bain.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai été demandé de poser pour ce costume de bain aujourd'hui par M. Torres. Alors, le maillot de bain, c'est seulement le bas.
La nouvelle mode, c'est simplement d'avoir un maillot en bas.
Je ne sais pas si ça, c'est la nouvelle mode, mais peut-être ça va venir dans quelques années.
Vous partez en vacances cet été?
Peut-être, si j'ai le temps.
Si vous allez au bord de la mer, vous porterez ce maillot sur les plages?
Si c'est privé, oui, parce que sinon c'est un peu gênant avec les gens qui regardent tout le temps.
Est-ce que vous pensez que toutes les femmes peuvent se permettre d'avoir un maillot de bain comme cela?
Malheureusement, non. Parce qu'il y a les femmes trop minces, alors il n'y a rien. Ou ils sont trop grosses. Alors, c'est trop. C'est esthétiquement, c'est pas joli.
Et vous, ça vous va?
Je sais pas. Personne m'a dit encore.
Vous vous trouvez bien?
J'ai pas eu le temps de me regarder même dans la glace.
Évidemment, notre reporter réalise un petit sondage auprès des Français. Et le monokini ne fait pas l'unanimité.
Vous savez, moi, alors là, je suis d'accord, alors parfaitement d'accord. C'est une mode qui va être difficile à porter, disons. J'ai eu l'occasion de vivre dans certains pays où les femmes ont les seins nus aussi. On n'y trouve rien d'extraordinaire. Alors, je vois pas pourquoi chez nous, ce serait pas pareil.
Qu'est-ce que vous en pensez, madame?
Oh, ben, je trouve que c'est indécent, quand même, de mettre un maillot qu'avec des bretelles et sans autre chose. Les seins nus, c'est bon pour les naturistes.
Mais si cependant votre clientèle vous en demande, est-ce que vous la vendrez?
Je ne crois pas que je prendrai à un fournisseur un maillot de cette façon-là. Parce que je n'ai pas l'impression quand même qu'une de mes clientes qui vient chercher chez moi des choses boutiques, des choses très jolies, accepterait de porter un maillot avec des seins nus.
Vous avez une opinion, monsieur, sur cette nouvelle mode?
Je ne suis pas contre, à la condition que ça ne touche pas ni ma mère, ni ma femme, ni ma fille, ni mes sœurs.
Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je suis tout à fait contre.
Vous avez quel âge?
18 ans.
Vous ne le porteriez pas, alors?
Oh, non, pas du tout.
Et vous?
Ah, moi, j'ai fait du nudisme à l'île du Levant. Je suis pour le nudisme, mais je trouve que cette demi-mesure, justement, ça a un côté exhibitionniste.
Et où la mode du monokini a-t-elle explosé à l'été 1964? Dans la station balnéaire des vedettes, bien sûr. Saint-Tropez. Cette mode débarque d'ailleurs en plein tournage du fameux premier volet des gendarmes de Saint-Tropez.
Ah, regardez-moi ça. Si la vieille couturière de ma femme n'était pas morte, elle en mourrait.
Mon adjudant! Mon adjudant! Ça y est, à Tahiti, ça recommence.
Quoi? Qu'est-ce qui recommence? Les encombrements?
Non, non, les nudistes, tous à poil. Passez-moi l'expression, mon adjudant. Il y a même des plaintes de déposer, dont une de...
De qui? Il faut agir immédiatement.
C'est pas du sucre. Passez-moi l'expression, mon adjudant.
Voulez-vous que je m'en occupe, mon adjudant? Non, les nudistes, Cruchot, je les aurai. Il y a trop longtemps qu'ils me narguent. Rassemblez tout le monde! Allez!
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Toi, où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Vous avez sans doute reconnu la jeune Sylvie Vartan en 1964 avec son tube La plus belle pour aller danser.
1964, on de la raconte sur Europe 1.
Je vous ramène au cœur de l'été 1964 et cette année-là, une jeune présentatrice de télé lance une mode sulfureuse. Noël Noblecourt a 21 ans. Elle est jolie, elle est pétillante, et c'est une vedette de la télévision. Elle est la speakerine de l'émission dominicale Télé Dimanche, 3 heures de divertissement qui mêle sport et chanteur à la mode. L'émission est suivie par 5 millions de foyers français, autant vous dire tous ceux qui possèdent une télévision. Et en mai 64, Noël Noblecourt porte une jupe. Une jupe qui laisse entrevoir ses genoux. À la télé. Autrement dit, une mini-jupe. La chaîne reçoit 200 lettres de protestation. Nous sommes extrêmement choqués. Toute la famille était réunie pour Télé Dimanche lorsque Madame Noblecourt a dévoilé ses genoux. Comment osez-vous? C'est une honte de s'exhiber comme ça. Elle n'a pas affaire du naturisme. Mais cette polémique est l'arbre qui cache la forêt. Car en vérité, de plus en plus de jeunes françaises portent la mini-jupe. Et les autres, ben, ils crient au scandale.
Croire à la plage, c'est horrible. 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 Oh, quelle horreur. Oh, putain. Voilà. On les emmène à la cantine.
Oh, ça, c'est beau.
Je les fais monter l'escalier.
Voilà, on ne montre plus, alors, là.
Non. Oh. Hein, faut monter l'escalier, là. Tu vas t'enrhumer.
Tiens, moi, à côté d'elle, je serai le plus heureux du monde.
Oh là là, ben tiens, Mali.
Il en faut pour tous les goûts, hein.
C'est gentil pour les... C'est vrai que pour les messieurs, c'est quand même bien, hein.
Oh non.
Allez, les gens, ma copain.
Regardez-le.
Regardez
la vue.
Hop.
Oh non, non. C'est la mode, c'est la mode.
Moi, je la trouve bien, moi. Maintenant, ce gars trouve fort bien, hein.
Elle est folle. Elle n'est pas normale.
Parmi les opposants les plus virulents à la mini-jupe, il y a des femmes, hein, oui. Et la critique vient de la plus célèbre des couturières, Coco Chanel. Figurez-vous que dans la foulée de la polémique, la pauvre Noël Noblecourt est virée pour avoir exhibé ses genoux à l'antenne. Toute la France en parle. Et le sujet est même évoqué à l'Assemblée nationale. Dans la bouche, par exemple, d'André Tourné, député communiste du Roussillon, à l'accent rocailleux.
Des dizaines de spectateurs, de téléspectateurs, à la pupille très certainement hypersensible, ont protesté. Elles ont protesté contre la tenue, dit-on, de cette speakerine Noël Noblecourt. On lui a reproché d'être à la mode, c'est-à-dire de porter, comme beaucoup de Françaises d'ailleurs, une jupe en avant sur le printemps. Et c'est parce que des pupilles hypersensibles ont protesté. Et vous le savez, monsieur le ministre, que cette speakerine, qui était d'ailleurs, comme le sont beaucoup d'autres, l'expression de la fraîcheur, de la grâce, de ce qui fait une des richesses de notre pays, c'est-à-dire la jeune femme française.
Le temps faisant son œuvre, 30 ans plus tard, en 1994, Raymond Marcillac, le patron de la télé publique, écrira dans son autobiographie que Noël Noblecourt n'a pas du tout été viré pour avoir exhibé ses genoux, mais parce qu'elle n'était pas professionnelle. Ce à quoi Noël Noblecourt répondra plus tard en dévoilant la vraie raison de son licenciement. D'après vous?
Oui, il y a une vérité. Il y a la légende. Pendant des années, je l'ai laissée courir parce qu'elle était jolie. Et puis j'ai commencé à être agacée parce que la personne qui m'a renvoyée n'a eu de cesse de dire à chaque fois qu'on lui posait la question de donner une version différente. Parce qu'en plus, il ne donne jamais la même version. Alors c'était, elle se prenait pour Marilyn Monroe, elle a donné un style tellement différent que ça n'était pas possible, elle arrivait en retard aux émissions, elle avait un contrat, enfin, c'est jamais la même version.
Donc vous voulez dire, mettons en plus en doute vos capacités professionnelles.
Alors ça, c'est la dernière fois que j'ai entendu ça, il n'y a pas très longtemps. Ça m'a fait sortir de mes gonds. Je me suis dit, ça suffit. Je veux dire, après tout, s'il y en a un ici qui peut être gêné, c'est pas moi, c'est lui. C'est monsieur Marcillac qui a, comment dirais-je, voulu exercer un droit de cuissage Oh oui, la foule, oui, parfaitement. Non mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et pendant 30 ans, j'ai rien dit. Et maintenant, basta. Il y en a ras-le-bol d'entendre ce monsieur se pavaner pour dire des choses fausses. Et c'est pour ça que j'ai été renvoyée, pas pour autre chose.
Vous voulez dire que l'histoire des genoux n'est qu'un prétexte qui est entré dans la petite histoire de la télé,
que j'ai lancé la mini-jupe, certes. Bon, point, ça n'a choqué personne. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see.
Pretty Woman de Roy Orbison, titre de 1964, qui va faire un carton mondial, mais 26 ans plus tard, lors de la sortie du film Pretty Woman. Ah bah voici venu l'heure de nous quitter, jusqu'à demain. Guillaume Maury et Julien Pichenet sont mes acolytes dans cette aventure. Boris Paczynski signe la réalisation. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1964, dans le troisième épisode, dont la traconte une année.
Retrouvez On de la traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.